Bonjour à tous, donc ceci est un message post-production que j'ai rajouté au montage. C'est parce que j'avais deux informations à vous faire passer. La première, c'est que je voulais m'excuser auprès de vous pour avoir tardé à monter et diffuser le podcast, cet épisode du podcast. Donc ceci s'explique par le fait que je suis en dernière année de master. Donc ces deux derniers mois pour moi ont été très rush. Donc c'était la dernière ligne droite pour finir les projets, finir les TP, finir les rapports, enfin finir d'écrire les rapports, faire les soutenances orales, réviser pour les examens, passer les examens. Et donc voilà, j'avais réussi à trouver une après-midi, enfin une soirée pour enregistrer le podcast et une après-midi pour monter l'épisode d'avant. Et j'ai pas pu faire autrement parce que c'était les examens et donc j'ai dû attendre la fin de mes examens pour m'attaquer à cet épisode du podcast. Donc je m'excuse vraiment auprès de vous parce que ça fait quasiment un mois de retard. Donc c'est pas très sérieux si on veut essayer de fidéliser les auditeurs quand on n'est pas régulier. Donc on va améliorer ce point-là. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais aussi encore m'excuser pour cet épisode parce que en fait, faut savoir que on a une salle pendant 2 heures pour enregistrer pour enregistrer nos 2 épisodes de podcast. Et donc on a un peu trop duré sur le premier épisode et puis sur celui-ci. Et du coup, j'ai pas eu le temps. Enfin, du moins, nous avons pas eu le temps de dire tout ce qu'on avait à dire sur le sujet. Donc, la fin peut paraître assez bâclée parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps pour terminer. Mais en tout cas, c'est pas perdu. C'est pas parce que c'est pas dit dans cet épisode que ce sera pas dit dans les épisodes suivants. Donc voilà, les petites annonces étant faites, je vais lancer l'épisode tel qu'il a été enregistré. Et merci pour votre écoute et votre fidélité.
Donc bonjour à tous pour l'épisode dossier du podcast Alpinux. Donc aujourd'hui avec moi j'ai Yuran.
Salut.
J'ai Jean-Noël.
Bonjour.
Et moi-même, donc Morgan. Donc aujourd'hui ça va être un épisode un peu, donc ça va être les épisodes dossier. Donc avant de commencer le dossier, je voulais juste vous présenter un logiciel que j'utilise, un logiciel open source que je voudrais mettre en avant. Ça s'appelle AudioGrep. Est-ce que vous connaissez AudioGrep?
Oui, j'entends déjà parler, je n'utilise pas.
Non. Alors c'est utiliser Grep, le principe. Donc le nombre de fois en fait où moi j'entends des choses dans les podcasts, je mémorise et tout. Et quelques mois plus tard, je me dis, ah tiens, j'ai entendu ça dans le podcast, c'était quoi? Je me souviens vraiment du sujet et tout. Donc l'idée, c'est que tu tapes ton mot-clé à chercher, et il va chercher dans les fichiers audio l'endroit où ça dit ça.
C'est vraiment... Ah d'accord, donc il y a déjà une partie reconnaissance vocale,
ouais.
Etc.
Et en fait, pour le truc, c'est basé sur Sphinx, donc un projet étudiant, universitaire du moins, de reconnaissance, donc ça vaut pas Google, quoi. Ça marche à peu près avec l'anglais, avec le français, c'est bof. Donc avec l'anglais, les livres audio, quand l'auteur il teste, ça marche plutôt bien, mais à mon avis avec le français, parce que moi j'ai utilisé Sphinx dans le cadre de mes TP en cours, c'est pas génial avec le français. Il vaut mieux lui parler en anglais. Mais bon, le logiciel a le mérite d'exister et je pense que l'astuce est sympa. Donc voilà. Comme j'ai dit, aujourd'hui c'est un dossier sur l'état du marché des OS mobiles. Alors, on va vous présenter un petit peu ce qu'il se passe des choses, et on va donc vous présenter un petit peu les alternatives qui arrivent. On va commencer déjà par Mastodon, Android. Android qui est open source, mais limité. Alors, j'ai vu, Jean-Noël, toi, tu m'avais posé un petit commentaire. En quoi tu trouves qu'il est limité?
Oui. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir un collègue qui a complètement viré l'OS. Bon, c'est un Samsung, d'origine, pour coller une version open source et donc la version AOSP, hein. Et franchement au niveau des applications, etc. Il n'y avait pas, il n'y avait pas les surcouches, quoi, mais on était plutôt bien à l'aise. Il n'y avait pas vraiment de limitation qui disait c'est parfait, enfin, c'est très utilisable, quoi.
Ah, on n'avait pas le même concept derrière limité. Pour moi, je trouvais que c'était le côté open source qui était limité. C'est-à-dire, je m'explique, c'est développement privé, la roadmap, elle est privée, c'est-à-dire, une fois qu'ils ont tout fini, ils donnent le code, et la communauté, c'est débrouille-toi derrière pour créer de... C'est pas vraiment la communauté qui s'implique dans le développement.
C'est ah, d'accord, structure, d'accord, d'accord, d'accord. C'est pas le résultat qui est limité, c'est les interactions.
Voilà.
Ah, ah, d'accord. Ouais, mais ça, c'est valable pour beaucoup de systèmes. Je veux dire, Qt est développé par une boîte qui fournit aussi sous des licences libres, mais la roadmap n'est pas...
Si, si, elle est publique. Là, actuellement, la roadmap, justement, pour 2016, elle a été publiée. Et il va y avoir plusieurs supports, mais du coup, ça va être intéressant, ça, pour Ubuntu. Donc,
d'accord. Mais ces décisions-là, ce que je veux dire, c'est que c'est... Mais c'est ce que je veux dire, c'est
la décision.
Ces décisions-là bah, sont
parce
pas...
Parce que Qt a 25% des commits qui viennent de la communauté.
Je ferais mieux de me taire.
Non, non, si, j'avais lu un article où il parlait justement, parce qu'il y avait un gros problème il y a encore un ou deux ans, où il y avait la version communautaire et la version commerciale de Qt, et il y avait un gros gap entre les deux, et ils avaient bien conscience de ça, et du coup ils ont essayé
de fusionner.
Voilà, de fusionner les deux. Merci. Et ils disaient justement parce que bon, c'est pas la communauté qui porte Qt, ils ont seulement 25% des commits si on regarde l'historique des commits. Mais voilà, ils voulaient
c'est
faire
part
d'open source. Bon, on va arrêter de digresser. Je voulais dire que Android, ça rapporte pas directement de l'argent à Google. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Et ben, quand j'étais en Irlande, j'ai rencontré un gars qui est sorti Erasmus, il est employé chez Google, Google Dublin, et il m'a dit que Android, ça rapportait peanuts. Ce qui rapportait de l'argent à Google, c'était les pubs, c'était YouTube. Essentiellement, c'est YouTube. Mais, Google, ils sont pas bêtes. C'est une machine à projet. Ils sortent peut-être, je sais pas, je dis des bêtises, mais ils sortent peut-être 100 projets à l'année, mais ils hésitent pas à les tuer. Le Google RSS Reader, qui était très bien, ils vont le tuer. Ça rapporte, si c'est pas rentable pour eux, ils le tuent, ils hésitent pas. Pourquoi Android est toujours là? Pourquoi Chrome est toujours là? Ça rapporte des données. Faut pas l'oublier. Alors, ça rapporte pas directement de l'argent, mais ça leur rapporte des données. Bah, eux, c'est ce qui les, c'est ce qui les intéresse. Maintenant, moi, la petite réflexion que j'avais, c'est pourquoi est-ce que Android est open source? Alors, au début, je comprends, face à iOS, il y avait seule une alternative open source qui pouvait être concurrencée. C'est la solution quand on va en mettre sur le marché. Quand on est totalitaire.
Monopole.
Voilà, c'est ça. La solution au monopole, c'est forcément l'open source. Ça, enfin, c'est une idée que j'ai. Bref, donc pour moi, ça a été. Mais pourquoi ça continue à être open source? Est-ce que c'est à cause du noyau qui est sous GPL2? Donc je crois que la GPL, c'est contagieux, donc si tu utilises le GPL, ton programme doit être GPL.
Pas pour la partie noyau. C'est GPL seulement si tu te lies avec. Mais toutes les applications qui sont posées sur une application qui est GPL, même une bibliothèque externe qui est GPL, ou kernel qui est GPL, n'a pas besoin d'être GPL même.
Donc, ça. J'utilise une librairie GPL, mon programme qui utilise cette librairie n'a pas besoin d'être GPL.
Tant que la bibliothèque, elle est effectivement autonome. C'est-à-dire que si tu la lis réellement dans ton programme, là, c'est qu'il y est. Et si tu l'appelles par une édition de lien du système d'exploitation, si tu ouvres un point .so ou une DLL, il n'y a pas de problème.
Ah, d'accord. Ok, petit instant du sang, ça c'est intéressant à savoir.
Est-ce que je dis une bêtise d'ailleurs?
Pas vraiment, c'est que j'ai...
Non, ça c'est la LGPL qui dit ça.
Ouais, c'est...
LGPL, c'est moi qui dis une bêtise en plus.
Ça, ce serait intéressant d'essayer de faire un dossier sur
oui,
sans que ça devienne sans que ça soit chiant, mais ce petit côté-là.
Mais non, à partir du moment où tu te lis avec, non. Effectivement. D'ailleurs, ce qui fait dire que la libc, elle est LGP. Elle n'est pas LGP, elle est LGP.
D'accord.
Donc, effectivement. Mais c'est, enfin, la licence d'ailleurs n'est pas LGP.
Non.
Non.
C'est
une licence, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est une licence MIT, je crois.
MIT, t'es sûr, tu peux revendre, tu peux modifier comme tu veux sans publier. La MIT, c'est la version vraiment libre.
Ouais, plus basique, ouais, ouais.
C'est pas contagieux.
Oui, c'est quelque chose vraiment, ce n'est pas GPL, c'est...
Quand on parle d'Android, on parle vraiment de la pile applicative qui permet de développer en Java dessus. Hein.
D'ailleurs, ils vont passer à...
Des sous-couches.
D'ailleurs, ils vont passer à OpenJDK. J'espère que ça va, faire de la contribution pour rendre OpenJDK encore un peu plus mature. Mm-hmm. Ça peut être une bonne chose. Je pense qu'ils ont marre un peu de se battre avec Oracle pour l'utilisation de Java. Je sais pas si vous le savez, mais en fait, Java, c'est libre. Tu peux l'utiliser comme tu veux sur tout ce qui est desktop. À partir du moment où c'est embarqué, tu dois payer des royalties à Oracle.
Donc le choix de Google s'est porté sur une licence Apache.
Ah, c'est sous Apache.
Ouais. Donc le code peut être intégré dans des applications propriétaires.
Ok. Vous connaissez... Ouais, non, on va pas partir sur les licences. Donc une des autres alternatives qu'on avait, c'est donc Mego, qui est devenu Tizen. Est-ce que quelqu'un se sent en parler?
Oui, ça me semble. Ça fait quelques téléphones avec ce système de quoi, ça.
Sur Tizen?
Oui. Même le, si je m'interromps pas, je sais pas si je vais dire bêtises, mais c'est possible qu'ils ont sorti aussi les montres connectées.
C'est un truc qu'ils utilisent plus pour le wearable? Enfin, pour le...
Non, même télé. Même pour le smartphone. Ils essayent, avoir quelque chose, ils développent ça, c'est là, en fait, c'est, je veux dire, un seul système d'exploitation, en fait, qui est soutenu par Linux Foundation, si je ne me trompe pas, qui est libre, etc. Oui, bien sûr, c'est open source. C'est quelque chose qui était basé, comme tu as dit, Mego, qui était précédemment encore, comment ça s'appelait, avant c'était encore quelque chose, le nom a changé, mais le système a resté toujours même. C'était un système qui a développé Nokia aussi. Et bien sûr, si je ne me trompe pas, Intel participe, il y a des grands acteurs, voilà, dans tout ça. Et donc c'est, comme je dis, c'est un seul système qui est développé, bon, qui est soutenu par Linux Foundation. Alors après, on a des autres, voilà. Mais,
Moi, j'en avais entendu parler, il me semble, pour tout ce qui était entertainment dans les automobiles, etc.
Voilà, ils essayent ça intégrer par d'autres.
Multimédia, plutôt pour les applications fortement embarquées, fortement, avec contraintes et bien spécifiées. Ça n'a pas du tout le même genre d'application qu'un Android, où l'objectif c'était d'être portable sur un maximum de plateformes.
Ouais, c'est bien. Alors, vous le faites ici, voilà, dans les voitures, comme tu as dit. Mais Samsung, ils essayent faire son écosystème, et donc je pense qu'ils vont intégrer ça dans le... Même cet été, si je me souviens bien, c'était, je sais pas que c'était comme un événement, mais ils ont présenté genre des maisons intelligentes où c'était intégré dans les frigos, machines à laver et tout ça, qui a communiqué avec ton smartphone et tout était sous Tizen, voilà. Tizen. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, qui est intéressant, mais pour l'instant c'est quasiment, si je ne me trompe pas, que qui en soit dit quelque chose qui est intéressant d'autre, voilà.
Donc c'est, si je dois, mais c'est embarqué, c'est plus pour l'embarquer, l'accent est mis sur embarqué, si je dois résumer.
C'est universel, polyvalent,
c'est
très très polyvalent.
Donc nous avons BlackBerry OS. Alors je, moi c'est, donc j'étais trop jeune.
Tu peux presque en parler au passé.
Pardon?
Tu peux presque en parler au passé.
Ouais, c'était, si c'est Android. Ouais. Mais disons que j'étais trop jeune. C'est mon premier téléphone que, enfin au moment où j'avais d'acheter des téléphones, BlackBerry ça commençait déjà à être la fin. Quoi, j'ai pu m'acheter un téléphone. Et c'est intéressant parce qu'il était basé sur les mêmes technologies que Multitouch, donc sur QT.
Je t'interromps un peu. Oui, tu peux continuer.
Non, ça, mais c'était
juste. BlackBerry OS, qui est nouveau, BlackBerry OS, pas l'ancien, en fait. Il faut, voilà, l'ancien qui n'existe plus, on dirait. Le nouveau qui est BlackBerry OS, je sais plus, il appelle ça BlackBerry OS, je ne veux pas dire bêtise, 10 ou...
Ouais, 10, ouais, j'ai...
Voilà, 10, donc, je pense, c'est quelque chose comme ça, je sais plus maintenant exactement. Bon, je ne vais pas vous mentir. Mais ce n'est pas l'ancien système. Donc voilà, c'est tout. C'est le nouveau système qui, bien sûr, qui est en termes des... Je ne sais pas si on vient des mouilles, mais presque. Pour l'instant, il y a des téléphones sur le marché, donc comme Tizen et BlackBerry OS, ce sont les deux systèmes qui existent voilà, sur le marché.
Vous avez entendu parler aussi de... Enfin oui, vous avez entendu parler de Selfish OS, mais ouais, le réchec avec les tablettes. Vous avez entendu parler de la raison?
Oui, ils ont un peu surestimé leur compétence, ou les, je sais pas si les Chinois ont monté les pays et ils n'ont pas pu fabriquer tous les appareils qu'ils ont promis. Mais Selfish OS, c'est aussi un des systèmes qui existe pour l'instant sur le marché, même les téléphones. Je pense qu'il est possible, il est possible d'installer par exemple nous-mêmes par Nexus 4 aussi. C'est un téléphone d'un peu particulier, donc. Mais
il a quoi de particulier Nexus
4? Il est, si je ne me trompe pas, c'est open hardware, donc c'était un téléphone fait pour les développeurs un peu. Donc pour ça, il est payé par toutes les autres. Développeur, on va dire, toutes les autres communautés pour tester ou développer un système d'exploitation, on va dire, mobile, comme Ubuntu, comme Selfish, comme Yigo, si c'est possible, je pense, il y a des autres systèmes aussi, Firefox, qu'on peut installer là-bas. Donc, c'est pour que si je reviens au sujet BlackBerry. Selfish OS, pardon. Donc c'est ça sera possible à installer aussi, je pense, sur Fairphone aussi, parce que la société a quasiment bancarité, je pense, mais ils vont continuer à développer les systèmes d'exploitation. Voilà, ils vont arrêter les appareils et ils vont continuer à faire les systèmes qui sera. Ils cherchent le partenaire aussi pour sortir les appareils avec le système, voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est possible à installer sur certains appareils qui sont déjà sur le marché. Je pense Sony, Z1, ou des choses comme ça, voilà.
Moi, je crois que c'est juste le projet tablette qui m'a...
Ils ont eu un problème de financement, c'est pas des livraisons, voilà, ils sont déviés, ils ont utilisé beaucoup de ressources pour quelque chose, on sait pourquoi, voilà. Mais en tout cas, je l'ai trouvé sincère, ils ont dit ce qu'ils ont fait, ils ont informé les gens. Malheureusement, j'imagine les gens qui n'ont pas été livrés avec leurs tablettes qui ont payé.
Très en colère, oui.
Les
réactions que j'ai pu voir.
Voilà.
Voilà. Donc ça, c'est... les OS qu'on va dire classiques, c'est ceux qui pour moi n'ont pas quelque chose qui apporte pas réellement de nouveauté. Selfish OS, c'est au final juste une et encore c'est propriétaire quand même assez. Selfish OS, c'est pas très open source, c'est plutôt critiqué pour ça.
Pourquoi?
Parce que les développements, je sais qu'ils sont propriétaires, il y a plein de trucs propriétaires dedans. Je sais que c'est pas une... J'ai déjà entendu des critiques pour ça, alors je pourrais pas te justifier.
Je n'ai pas regardé dans le détail, mais je sais qu'ils utilisent aussi normalement, ça fait open source, voilà. Normalement. Donc, ils utilisent beaucoup de choses comme Wayland, etc. D'abord, ils ont été les premiers qui ont sorti Wayland en réelle utilisation. Donc, je sais pas.
Bref, du coup, ça reste quand même, ils ont quand même garder la compatibilité Android pour avoir un application comme vous disiez tout à l'heure dans le podcast la dernière fois. Moi je m'en fiche de l'environnement graphique, ce que je veux c'est l'application. C'est vos mots, je reprends.
Oui, c'est ça tout.
Alors maintenant il y a une deuxième vague qui apparaît c'est ce qu'on appelle la convergence. Alors la convergence. Alors juste avant d'attaquer la convergence, je vais juste parler du cas Firefox OS. Donc Firefox OS, donc, bah, c'est un projet qui est mort.
Pas vraiment.
Ouais, bon, on va laisser dans la communauté.
Pas vraiment.
Mais voilà ce que j'avais à dire. En 2014, il y a 50% du comité qui a quitté le conseil d'administration suite à la nomination de Brennan H. Est-ce que vous connaissez cette personne?
Je t'ai dit, mais je connais pas son histoire, qui est cette personne, mais...
Brennan H, excuse-moi si je écorche son nom, c'est en fait le créateur du JavaScript. Ni plus ni moins.
Je connais, ouais, bien sûr.
Et en fait, il a été très critiqué parce qu'il était trop technique, il avait pas une vision assez d'avenir par rapport à Firefox OS. Suite à ce désaccord, 50% du comité a quitté, du conseil d'administration a quitté. Alors Firefox OS vont continuer d'accepter les nouvelles applications développées jusqu'en 2017, ils l'ont promis, après on sait pas. Le projet reste open source, il pourra continuer si la communauté le porte, mais c'est incertain parce que ils ont déjà pas réussi à convaincre les développeurs pour créer des applications pour Firefox OS, alors en plus porter l'OS eux-mêmes, ouais, pour moi ça reste incertain. Le gros moins de Firefox OS, enfin c'était ce qu'ils se vendaient pour être son point fort, c'est ce que pour moi je trouve son point faible. En tant que développeur, faire de la web application, non. C'est laggy, c'est... Même pourtant en tant que développeur, tu prends même pas du plaisir à développer. C'était une erreur. Ils ont voulu standardiser avec le HTML5. Alors, ils ont dit qu'ils voulaient essayer de se recentrer dans les objets connectés, donc changement de
branche.
Réorientation. Alors, je me demande s'ils ont vraiment une organisation derrière. Enfin, ils essayent, ils pensent ce qu'ils peuvent, je pense. Pareil, bah, peut-être que l'HTML5, là, ça pourra jouer un rôle de standardisation, mais bah, bon, Python a l'air d'avoir une petite longueur d'avance, apparemment.
Oui, ça c'est sûr. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est...
Pour moi, Python, c'est quand même pas quelque chose qui est indépendant de la plateforme. On compile directement pour faire de l'exécutable. Dès qu'on parle de... On a parlé d'Android, ou quand on parle de Firefox OS, on est quand même en train d'embarquer une machine virtuelle qui fera tourner un code avec un interpréteur plus ou moins efficace et plus ou moins... On est quand même dans une approche comme ça. C'est pas Tizen. Tizen, on compile pour la machine.
Voilà, ce n'est pas... Voilà, c'est un peu particulier. Voilà. Mais en tout cas, comme tu dis, Firefox OS... mobile, voilà, était abandonné, mais pas Firefox OS, je vais dire, ils vont continuer à développer pour l'internet des objets, pour les télé, pour certaines choses, voilà. Donc, je sais pas si ça va marcher, avec le temps, on verra, mais, quand même, ils vont pas jeter ça tout de suite, à l'eau, voilà, pas tout de suite.
Et donc passons à donc toute cette nouvelle vague de pour les smartphones, donc c'est ce qu'on appelle les OS dits convergents. Alors là, on sent que c'est quelque chose qui attire. Alors mon point de vue là-dessus. Non, avant de donner mon point de vue, je vais parler des autres OS. Donc il y a Maroon OS, c'est encore en bêta, c'est basé sur Android 5 Lollipop. Et c'est sur Nexus 5. En fait, l'idée de Maroon OS, c'est que, en mode mobile, donc, tu branches ton téléphone, tu peux brancher, donc, un écran à ton téléphone, ton mobile reste mobile, donc, ça reste sur ce Android 5 Lollipop, mais dessus, il y a aussi un Debian installé. Et tu pourras, jouer avec Debian. Donc, les applications sont pas partagées, donc, quand t'es sur Debian, t'as tes applications Debian, et quand t'es sur le téléphone, t'es sur le téléphone. Par contre, donc voilà, c'est pas une réelle convergence. Les apps sont différentes, mais par contre, tu partages des choses comme la Wi-Fi, la 3G, la mémoire flash, etc. C'est une façon de voir les choses. Voilà. Une autre alternative qui existe, c'est Remix OS, qui est actuellement en version 2.0 depuis mi-janvier. C'est la société qui est derrière, ça s'appelle la société Jive. C'est pareil, ça utilise des applications Android. Alors en fait l'idée c'est que
ce n'est pas pareil, c'est quoi pareil?
Comme Mario OS, c'est Android derrière.
Oui,
avec
mais
une surcouche.
C'est... Ce n'est pas la même chose, non. Ce n'est pas du tout la même chose. Je ne veux pas te contrarier, mais comment ça s'appelle, MariOS, t'as dit,
MariOS.
MariOS, c'est un deux systèmes complètement indépendants qui tournent sur un même appareil.
Ouais.
C'est un Nexus 5. Ça, ils ont pas mieux fait ça pour les autres appareils, mais c'est un appareil. Et là-bas, t'as installé deux systèmes qui tournent en même temps. Voilà, ce n'est pas de la vue. C'est qui tourne en même temps. Tu branches ton écran externe et tu peux utiliser ton PC desktop, voilà, bureau. Et à côté, t'as ton téléphone portable. Voilà.
Deux OS différents.
Voilà, deux OS différents. C'est cette façon-là. C'est qu'ils font les Remix OS. C'est un Android même qui est adapté au desktop environnement. Voilà. Donc ce n'est pas doux système, etc. C'est juste il essaye rajouter un peu visuel différent aux applications et au système pour qu'il est adapté en grand écran. Voilà, écran HD, Full HD. Et donc c'est les applications Android que tu utilises sur les grands écrans. Voilà. Dans les macOS, c'est
deux systèmes,
voilà, deux systèmes différents. Donc tu installes GIMP, tu installes Inkscape et tu utilises là-bas cette application. Et tu ne peux pas utiliser les applications d'Android.
Non, voilà. Quand je disais que c'était pareil, c'est dans le fait qu'ils utilisent Android.
Oui.
Donc dessus, ils ont rajouté une surcouche Android pour que ça ressemble à un desktop. Ils ont implémenté deux trois couches. Genre, par exemple, ils ont implémenté le clic droit. Quand tu as un clic droit, ça fait des actions. C'est light, donc en fait l'idée c'est les vieux PC, quoi, ça marche bien pour les vieux PC.
Je vais rajouter que ça existait déjà avant. On avait un projet, d'abord il faut dire qu'Android, voilà, c'était possible de tourner sur les processeurs x86, et donc avant c'était un projet Android x86 qui a existé déjà, qui c'était possible d'installer. Ce n'était pas cette approche-là que MixOS. Mais maintenant, ils ont fait un partenariat qui vont continuer à développer cette système, on va dire. Donc on verra qu'est-ce que ça va donner.
Mais je crois que les conditions d'utilisation, tu vends PRMR pour utiliser Remix OS, ça fait débat.
Ouais, il faut dire que c'est les Chinois.
sinon, dans l'autre qui sont dans le marché de la convergence, il y a Windows avec Continuum. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Pour le moment, c'est surtout de la com. Il y a pas quelques gens ont pu tester, mais je ne crois pas que ce soit public. Enfin, moi, j'ai pas trop d'informations.
Oui, ça existe, si je ne me trompe pas. Il y a juste un seul appareil, smartphone, qui c'était bien sûr. Maintenant, comment il s'appelle? Lumia, voilà. Lumia haut de gamme, 950X, je ne sais pas quoi. Il faut acheter petit boîtier avec ça devient pas cher, mais c'est un peu plus cher que il faut avoir le matériel propriétaire, etc. Donc c'est un peu limité et c'est plus cher comme bien sûr Nokia haut de gamme, enfin Nokia désolé, Lumia, qui coûte assez cher aussi. Et pour l'instant, il faut dire que tu as déjà mentionné convergence, donc je veux dire que Ubuntu, Touch, il appelle ça convergence, et donc ce n'est pas la même chose qu'est-ce qu'il fait Canonical. Windows, ils font juste c'est une simulation, on va dire, de desktop, on va dire. Ce n'est pas vrai desktop. Bon, je ne veux plus parler. Continue.
Ben, c'est exactement ça. Tu as très bien dit la chose. Je pense que tu l'as dit mieux que moi. C'est pas une vraie convergence, hein, dans mon sens. Et tu m'as fait une parfaite transition pour Ubuntu, qui, lui, selon moi, apporte la meilleure solution à la convergence. Mais avant d'attaquer ça...
Voilà.
Pour l'instant. Mais avant d'attaquer ça, je t'entends pas beaucoup parler, Jean-Noël. Je voulais savoir quel était ton avis sur les téléphones convergents. Tu crois? Tu crois pas? C'est de la pub? C'est du commercial? C'est...
Aujourd'hui, pourquoi on utilise un téléphone? Mon smartphone. Ben, je dirais pour des interactions sociales de base, une recherche de base. Et dès qu'on a besoin de faire quelque chose d'un peu plus avancé, j'ai encore du mal à voir quel intérêt on aurait à essayer de devoir ajouter toutes sortes de périphériques autour d'un boîtier comme ça, alors que déjà aujourd'hui, ce qu'on nous vend, c'est jamais que c'est quelque chose qui est rentré dans le cloud, et pour lequel n'importe quelle application par ailleurs nous permet de tester. j'ai du mal à voir vraiment l'avantage vraiment concurrentiel qu'on pourrait avoir à dire j'ai le même ressenti sur mon bureau ou sur mon téléphone. Sur mon bureau, j'ai des besoins qui sont complètement différents. Alors maintenant, si je commence à ramener mon bureau dans mon téléphone, ça me rappelle des souvenirs des premières versions de Windows Mobile avec le menu démarré en bas de l'écran du téléphone.
Eh ben, je suis content que tu aies dit ça parce que c'est tout à fait le genre de réponse que j'attendais pour te présenter Ubuntu Touch correctement. Donc, ça veut dire que tu n'as pas compris. Enfin, que tu ne. C'est normal.
Non mais
c'est normal.
Ouais, ça c'était hard. Je n'ai pas eu un bon exemple, mais
ouais, c'est typiquement
franchement. Windows, ouais, je me souviens très bien. Ça, c'est. Waouh.
C'était convergent, hein.
Ah oui. Oh la vache. Désolé.
Donc, pourquoi, selon moi, Ubuntu Touch est meilleur? Alors, en cours de design.
Meilleur quand on compare avec quoi?
Convergence par rapport à toutes les solutions là que je vous ai présentées.
Ah, d'accord.
Au final, tout ce que je vous ai présenté, moi, ça a été quoi? C'était d'utiliser de l'application Android. Sauf Firefox OS, qui a essayé de faire la web app. Oui, en fait, en cours de design, nous apprenons l'approche mobile first. Sur mobile, ce que tu veux en premier, comme tu l'as très bien dit, c'est consulter l'information. Sur un desktop, ça va être plus édité, par exemple.
Ah, ouais.
Un truc que tu travailler, que tu ne voudras pas faire sur un téléphone. Développer pour Ubuntu Touch, c'est approcher... Donc, ils ont utilisé l'approche mobile first. Ils font d'abord du mobile, ensuite ça s'adapte tablette, ensuite ça s'adapte pour ordinateur, ensuite ça peut s'adapter pour télé, et ça peut s'adapter pour n'importe quoi. Parce qu'en fait, en prenant l'approche mobile first, tu n'as rien. Donc je vais détailler un peu mes exemples. Donc ils sont des composants qui s'appellent par exemple Adaptive Layout, où ça va sur téléphone, ça va par exemple pour les mails, ça va lisser tes mails, tu vas avoir une liste avec tes emails. Tu vas cliquer dessus, ça va t'ouvrir la page des emails comme on apporte des clients sur le téléphone. Maintenant, tu vas passer en mode plus de largeur sur une tablette ou un ordinateur. Tu vas voir comme Jerry, tu vois Jerry client mail. En fait, t'as la liste des mails sur le côté et quand tu cliques dans la grande fenêtre, ça va prendre, je sais pas moi, peut-être 10% de la page. Et quand tu vas cliquer sur le sujet, ça va t'ouvrir dans les pourcentages qui restent le contenu de l'email. Mm-hmm. Donc la même application va avoir un comportement totalement différent entre sur le mobile et sur le desktop. Et utiliser l'approche mobile first, c'est que tu te concentres d'abord sur le mobile, ensuite sur la version desktop. Imagine tu ramènes Jerry, donc enfin le client mail qui utilise donc le layout sur le côté. Sur un format téléphone, c'est absolument illisible, tu peux pas lire, c'est inutilisable. Et c'est pareil, LibreOffice aussi, on fait donc la version Ubuntu Touch avec Document Viewer. Sur Document, tu peux juste lire, mais quand tu lances sur mobile, sur desktop, t'as le vrai LibreOffice. Tu regardes sur Microsoft, leur solution Word, dit convergent, quand tu branches sur ton mobile, c'est exactement la même interface. Tu vois directement sur le screenshot que j'ai vu sur desktop, c'est comme sur mobile, c'est que de la consultation, t'as pas toutes les éditions comme t'as sur la vraie application. Voilà, donc ça pour moi, en mon sens, c'est la vraie convergence, enfin c'est la convergence la mieux faite.
Yeah, ça veut dire que c'est une convergence qui permet de simplifier la vie du développeur, c'est ce que t'es en train de dire, c'est que pour
c'est
le développeur
ça.
Il a du develop once et du run everywhere
pratiquement. Mais pour l'expérience utilisateur aussi, il y gagne. L'utilisateur va avoir une vraie expérience mobile, une vraie expérience desktop.
Oui, mais c'est-à-dire que lui, il n'a pas cette convergence-là. Enfin, c'était mon point, c'était de dire, dans le cadre d'une application pour un autre produit mobile, où les ressources restent quand même
limitées,
enfin, ou en tout cas, les moyens de communication restent limités, forcément, tu limites le canal comme tel de communication. Mais, les usages sur ton téléphone fixe vont forcément être, sur ton ordinateur fixe, pardon, vont forcément être beaucoup plus riches. Et, je vois pas pourquoi t'embarquerais tout la risque de richesse dans un téléphone, là où finalement, tu ne vas pas l'utiliser. Si au final, t'embarques une application qui pèse de ce qu'elle devrait sur un desktop, sur un téléphone, pour n'en utiliser que 10% des fonctionnalités, il reste quand même un problème. Mmh.
Ouais.
Alors, c'est pas bête ça. Hein. C'est pas en fait Il faut dire que...
C'est l'heure.
Désolé, on va terminer bientôt. C'est l'heure. Donc, je vais rajouter, c'est pas bête, parce que oui, sur les smartphones qu'on connaît aujourd'hui, via les mémoires qui sont assez limitées pour l'enfant, donc sur 8 giga, j'imagine que on va pas installer une super application comme Blender et travailler là-bas avec plein de choses, voilà. Pour l'instant, voilà, mais je sais pas, voilà, c'est peut-être pour les utilisations basiques, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas.
Là, je veux dire, je fais des remarques, mais comme je, franchement, je suis pas, je suis vraiment un dossier, peut-être que c'est déjà resté dessus. D'ailleurs, je suis assez étonné de la question que je me pose, pourquoi les joueurs.
Mais, en fait, tu as posé une très bonne question, parce que même le dernier mobile qu'on a le plus, parce que Firefox OS a échoué, parce qu'il faisait que du bas de gamme. Ubuntu fait aussi du milieu haut de gamme, avec MX5, Meizu MX5, qui est une copie chinoise un peu de l'iPhone 4, 5S, je sais plus. Et même ce téléphone qui est le plus puissant actuellement, il est encore pas assez puissant pour Ubuntu. Mark Shutterwalk le dit lui-même, c'est pas encore assez puissant, c'est encore trop laggy. Donc c'est ce que tu dis. Même encore maintenant, les applications sont trop puissantes. Parce que derrière, il y a tous les comptes, derrière dans Ubuntu, t'as tous les concepts de, toutes les applications sont confinées entre elles. Donc, rien que pour démarrer une application, ça prend 2 secondes de chargement, c'est ça. Moi, je pensais, c'est ce que j'avais le BQ Aquarius 4.5, je pensais qu'il était, c'était vraiment parce que le téléphone, il est pourri, enfin, c'est un entrée de gamme, il fait 150 euros, 190 euros. Je pensais qu'il n'y avait pas assez de rapidité, et j'ai demandé sur le LX4, c'est pareil, l'application, ça prend 1 ou 2 secondes à lancer, c'est parce que derrière, il y a tous les contrôles de permission, de choses comme ça.
C'est assez... je sais pas si, oui, si Marc a dit ça, que c'est la vie, voilà, pour utiliser ces mots. Mais oui, c'est vrai, ce n'est pas si réactif pour l'instant, c'est une seule chose qui m'est un peu gêne. Je vais lancer une simple application calculatrice et j'attends 2 secondes, j'ai déjà compté dans ma tête. Donc, c'est un peu dommage. Mais sinon, c'est possible qu'il faut un peu de temps parce que donc quand même c'est un système très jeune et donc il n'y a pas si longtemps que iOS est sorti et il ne savait pas faire copier-coller, voilà, donc à voir.
Oui. Enfin, je veux dire, on a besoin de plus de puissance, c'est quand même quelque chose qui me trouve un petit peu... Non, c'est clair, on est à des puissances dans notre poche qui explosent. Mais de très loin, l'imagination de ce qu'on pouvait avoir sur son bureau ou même sur une salle de serveur quand j'ai commencé mon métier, c'est normal, hein, l'amour, mais quelque part, à un moment, les puissances disponibles devraient permettre largement d'avoir une expérience correcte. Là, ce qu'on cherche, c'est pas forcément... je pense pas que ça soit un bon guide. De rechercher, voilà, cette ubiquité, parce que ça veut dire qu'on met des contraintes de folie sur la partie basse pour pouvoir tenir avec toi.
Je rajoute juste que pour l'instant, ce que tu as dit, t'as Aquarius, MX, Meizu, etc., toutes les appareils qui ont sorti pour l'instant, ce n'était pas des appareils faits pour Ubuntu. C'était des appareils d'origine pour Android, voilà. Ils ont juste porté, on va dire, Ubuntu Touch sous les appareils qui ont déjà existé, comme t'as dit, etc.
Et je pense que c'était commercial, dans un but commercial. Par exemple, BQ, que je connaissais pas avant Ubuntu Touch, ils décident de faire un partenariat, et voilà, ils sont mis en partenariat avec Ubuntu Touch, tous les early adopters, je crois qu'il y a eu plus de... Enfin, je sais qu'il y a eu plus de 10 000 unités vendues. Alors pour eux, ça a été un gros coup commercial. Ça a tellement bien marché qu'ils en font plein d'autres.
Oui.
Ils espèrent tous les early adopteurs.
Oui, pourquoi pas. Si, on verra.
Je voulais juste dire que toutes les critiques qu'on fait sur Ubuntu, c'est parce qu'on considère qu'ils sont trop... On compare trop juste à un simple téléphone, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus. On adhère pas, mais c'est beaucoup plus. qu'on reproche à Ubuntu, par exemple, ça fait 2 ans qu'ils sont dessus, ouais, mais ça fait 2 ans, ça, le clavier c'est encore l'iPhone, c'est comme l'iPhone 1, c'est vrai, l'autocomplétion elle est pas très bonne, il faut le dire.
Voilà, mais désolé, mais aujourd'hui, oui, c'est vrai, ce sont des petites bobos, voilà, je veux dire, mais c'est aussi parce qu'on est aujourd'hui très exigeant, voilà. Ah, oui, on a tellement avancé que on n'imagine pas un téléphone, voilà, qui fait pas qui envoie pas des textes, voilà, comme iPhone a vu, voilà. Donc, on n'imagine pas. Donc, on est très exigeant aussi, voilà.
Et ce que je voulais dire là-dessus, c'est que, faut pas oublier qu'Ubuntu, c'est une entreprise quand même commerciale, qui essaye de vivre du logiciel libre. Ils font des sous qu'avec la version serveur. Donc, moi, je trouve que c'est bien qu'ils essayent d'investir quand même pour du bureau, pour du desktop, pour du mobile, parce que enfin je trouve que c'est bien qu'ils fassent l'effort d'investir là-dedans, alors qu'ils pourraient se concentrer sur le serveur. Ça, je trouve, c'est un bon point pour eux. Ubuntu, voilà, pour moi, Ubuntu, ça signifie la démocratisation d'une alternative. Et pour moi, c'est vrai. À l'époque du desktop, ils ont signifié l'alternative. Je pense qu'à l'époque du mobile, ils vont signifier aussi l'alternative. Je pense que c'est ça. Ouais. Et je pense que pour le téléphone, ça va être le troisième acteur. Alors, je sais pas s'il va être gros, il va avoir, ça va peut-être être 40-40-10. Ouais, 50-40-10.
Voilà, comme t'as été un bon évangéliste des Ubuntu.
Ouais. Quasiment fan.
Non, alors justement. Donc, j'allais dire, ce qu'on reprochait à Ubuntu, c'est d'être parti tout seul. Par exemple, ils ont fait Mir. Des choses qu'on reprochait. Et, moi, je trouve que c'est un bon choix. Enfin, quand j'ai regardé, il y a donc en tant que développeur, en fait, dans Wayland, tes applications n'ont plus d'ID. Elles sont donc avant chaque application avait une ID pour les repérer, et Wayland ça enlève ça. Donc tu peux plus communiquer entre les applications. La base d'Ubuntu, c'est d'avoir un hub où toutes les applications communiquent. Et surtout, par exemple, moi, je vois, j'ai créé l'application OpenFootFact, fallait que je prenne des photos, je reconnaisse un code barre. Et donc, ce que j'ai utilisé, c'est que j'utilise grâce à Qt, ils ont une fonctionnalité qui permet de prendre un screenshot de l'application. Et ça fait ça avec l'identifiant de l'application. Ça m'a permis de pouvoir donc prendre des photos, analyser des codes barres dessus, des choses comme ça. Très très utile, chose qui aurait pas pu être possible avec Wayland. Avec Mir, ça permet d'autres interactions. Wayland est trop basé sur le tactile ou quoi. Avec eux, ils ont dans le futur, dans l'idée d'utiliser par exemple du leap motion, enfin de la gestuelle ou quoi. Mir pourra gérer tout ça. Wayland ne peut pas. Mais ce que je reproche à Ubuntu, quand j'aurais demandé à la communauté pourquoi est-ce que vous portez pas votre Ubuntu SDK, enfin Ubuntu, pourquoi vous ne portez pas votre Ubuntu SDK pour d'autres distributions, pourquoi vous Mir c'est pas packagé, pourquoi Unity c'est pas packagé pour du Debian, des choses comme ça. Et ils ont répondu, bah je comprends, c'est une société après tout, et ils ont répondu franchement je vois pas pourquoi c'est Ubuntu de faire ça, ça devrait être aux autres de porter. Et est-ce que eux, ils le font pas, ça leur coûterait beaucoup trop cher en frais de maintenance, en comptabilité, tout ça, en compatibilité. Ça leur coûterait trop cher, c'est normal, mais bon, ça, je trouve ça limite quand même chez eux.
Ouais, c'est logique, ils développent leur activité commerciale, c'est quand même voilà.
Oui, ça, ça a toujours été de la vie, enfin, du ressort, des communautés autour des disciples, de les packager si vous voulez, hein. Pas forcément les développeurs en eux-mêmes, mais les développeurs à une classification de la disponibilité de leur application.
Ça d'ailleurs, je crois que les revenus semblent bien sympas. Et je voulais juste dire une autre chose aussi, donc, beaucoup de com. Comme tu disais, il y a beaucoup d'OS qui se mettent à faire la convergence, et Ubuntu, il y a 2 ans, ont lancé un gros crowdfunding super ambitieux. Et c'est ce qui a donné à tout le monde, je pense, l'envie de vouloir faire aussi de la convergence. Et je pense que Ubuntu, ils sont très forts pour faire de la com, mais comme entreprise, ils vendent un peu du vent. Par exemple, ils vendent la convergence, le truc, l'adaptive layout qui frappe tout le monde. Alors actuellement, je crois, en composant convergent, il y avait 2-3. Moi, qui est mon application, je l'ai testé en mode desktop, avec Uri. Enfin, il était exactement pareil entre le mobile et le machin. Mmh. Donc ils sont aussi... Ils vendent des choses, ouais, c'est convergent et tout, mais c'est pas encore fait, ça va l'être. Ils les font petit à petit. Je crois que t'as le list item, donc... Le fait, donc sur ton list item, tu peux te déplacer à gauche, à droite, ça fait des actions différentes. Quand tu vas et en fait, ils vont, quand tu vas s'appuyer, ils font des choses, en gros, ils ont fait en sorte que quand tu fasses clic droit, ça révèle d'autres actions, l'adaptive layout qui se comporte pas tout à fait pareil entre desktop et, mais au final, il y a encore pas grand chose qui est vraiment convergent. Ils sont forts pour vendre du vent. C'est normal. Donc voilà. Au revoir à vous.
Bon, merci de nous écouter.
Et puis au mois prochain.
À très bientôt.
Au revoir.
Bye bye.